Une autre image de cette année, c'est une photo de Thomas Pesquet depuis l'espace, une photo de la Terre au mois d'avril, où décidément il ne veut pas redescendre, une photo où domine le bleu, naturellement, ce globe bleu nuit, avec un mince contour de lumière parce que le soleil est en train de passer de l'autre côté, globe d'un bleu infini parce qu'on y voit l'espace tout autour, mais aussi l'eau de la Terre qui prend toute la place, ce globe qui ressemble en fait à un œil, parce qu'il vous observe en définitive, sauf que c'est pas un œil bleu pour le coup, mais un œil qui brille de mille feux. Parce que la pupille, c'est la terre que les hommes ont éclairée de leur artificielle lumière. On peut voir de l'intelligence dans les yeux vifs et brillants, mais on peut aussi y voir de la peur, celle qui anime l'animal pris dans les feux d'une voiture, par exemple. La peur d'être perdu, prisonnier, ou pire, annihilé. C'est ça que je vois dans cette photo de Thomas Pesquet, cette photo de la terre vue du ciel. Un œil à la fois sublime et apeuré qui nous regarde fixement, qui nous dit non pas sa fragilité, mais la terreur de son trop grand éblouissement, quand tout autour, il y a le bleu de la nuit, de l'espace et des océans, l'immensité qui nous précède, qui nous survit et qui nous rappelle qu'on est tout petit.
France Inter, le best-of, Augustin Trapenard.
Bonjour à tous et bienvenue dans Boomerang. Jusqu'à quel point mon invité est-il dupe de ce qui se joue autour de lui à la radio, mais surtout dans la vie? Contre quel mensonge, pour quelle vérité se bat-il aujourd'hui? Champion de la décroissance et de l'agroécologie dont il est l'un des pionniers, il est devenu avec son fameux mouvement du colibri une icône de la résistance face aux folies de la modernité et de la consommation à outrance. Ces mois derniers ont paru coup sur coup un livre d'entretien, L'agroécologie, une éthique de vie, un recueil de fragments, La puissance de la modération, sans parler de la réédition en poche de son manifeste vers la sobriété heureuse. Bonjour Pierre Rabhi.
Bonjour.
Donc là, Pierre Rabhi, on est au beau milieu de la deuxième semaine de cette COP21. C'est pas pour rien que je vous ai invité aujourd'hui. Vous y croyez, vous ?
J'avoue que non.
Très souvent, quand vous parlez des sommets internationaux, sur le climat notamment, vous dites que ce sont les lieux en fait, de manipulation de l'opinion, Pierre Rabhi.
C'est-à-dire qu'on a l'impression, tout ce qui concerne l'écologie, l'écologie est biaisée. L'écologie, c'est le principe fondamental de la vie. Donc ça concerne absolument tout le monde. Qui que l'on soit, on est concerné par l'écologie, puisque c'est le fondement de la vie. Il y a juste quelques jours, une femme est venue faire une enquête chez moi sur l'eau. Je lui dis, madame, vous êtes de l'eau. Et nous sommes tous de l'eau. Nous sommes tous de la terre. Nous sommes tous... Tout cela, notre squelette, c'est du minéral, enfin, nous sommes cela.
Comment on fait, Pierre Rabhi, pour mobiliser la société civile? Comment on fait pour transformer chaque citoyen en colibri? Pour reprendre votre expression fétiche.
Je pense que ça ne se ferait pas si les gens ne ressentaient pas ce besoin. Évidemment, je suis quelqu'un, s'il y a peut-être un mérite, c'est que je fais ce que je dis ce que je fais, et que je suis très très impliqué dans cette problématique du rapport entre l'être humain et la nature, et en particulier du rapport entre l'être humain et la terre qui le nourrit.
Alors je parle du colibri bien sûr parce que c'est votre emblème et votre métaphore préférée. Votre livre La part du colibri est devenu une bible autant qu'un best-seller et il s'inspire d'une légende amérindienne. Je la rappelle, un incendie, tout le monde panique et le petit colibri va transporter goutte d'eau par goutte d'eau de quoi éteindre le feu. À ceux qui doutent, il répond « je fais ma part ». Ça fait 50 ans que vous faites votre part, Pierre Rabhi. L'incendie entre nous, il tarde un petit peu à s'éteindre, non ?
Non, à mon avis, non seulement il tarde à s'éteindre, mais à mon avis, il s'amplifie. Il n'y a qu'à voir l'état du monde. Hein. L'état du monde n'est quand même pas n'évolue pas vers la sérénité, l'apaisement, etc. Et on peut même soupçonner que l'état du monde risque d'aboutir à quelque chose qui peut être une déflagration, d'ailleurs.
Pour autant, vous y croyez toujours, au pouvoir du colibri ?
Ah oui, oui. De toute façon, c'est une façon de s'imposer soi-même dans la complexité et de se mettre en cohérence avec soi. C'est tout. C'est simplement ça. Est-ce que je peux être cohérent avec moi-même entre mes convictions profondes et les actes que j'accomplis? Je ne suis pas Dieu, donc je ne peux pas changer le monde à moi tout seul. Par contre, le peu que je peux faire, je le fais positivement. J'essaye aussi d'introduire dans mon langage humblement le fait que la nature, ce n'est pas simplement... la nature, c'est beau. Et on ne parle jamais de la beauté de la nature. Et j'ai une petite anecdote comme ça, un ami vient m'aider à couper du bois, etc., chez moi, et puis je vais l'aider, et puis la journée tombe, la fin de la journée tombe, et puis il y a un magnifique coucher de soleil, il y a le soleil rouge qui descend dans l'horizon, et sur ce panorama se découpe un arbre magnifique. C'était l'hiver, donc il était dénudé. On aurait dit une espèce d'œuvre d'art magnifique qui se plaquait sur le paysage. Et j'étais vraiment subjugué On se nourrit de cette beauté extraordinaire. Et lui était en train de ranger les outils et j'ai envie de lui faire participer. Il vient, je lui dis regarde, comme ça. Il me dit, il y a au moins 10 stères. Vous voyez ? C'est-à-dire que l'arbre est devenu des stères, alors que l'arbre, c'est un être vivant. Et c'est un être où les oiseaux viennent se réfugier, chantent, les feuilles, tout ça. Mais on s'est éloigné. La rationalité nous a tellement desséchés que nous sommes de moins en moins sensibles à tout cela. Alors il y a beaucoup de professionnels qui essayent de rétablir la beauté qui devrait être une beauté naturelle et accessible à tous. Donc ma mission, c'est d'être au service de ce qui me paraît beau et important pour que la vie ait un sens. Donc j'ai essayé de me construire comme j'ai pu, ma pensée, mes engagements, etc., avec notamment une femme courageuse qui s'appelle Michel. Et on a été dans une aventure singulière de retour à la Terre, parce qu'il y a déjà une cinquantaine d'années. Et ça a été mon grand mode d'expression sur cette vie, ça a été de prendre une petite terre ardéchoise et de l'aimer, de la nourrir pour qu'elle elle nourrisse ma famille. Et elle nous a bien nourris, et puis voilà, je me sens milliardaire.
La culture et les arts, je m'interroge, Pierre Rabhi, quelle place est-ce qu'ils auraient dans un projet agroécologique ? Parce qu'aujourd'hui, ce sont des secteurs quand même qui sont pleinement intégrés au système de production capitaliste. Donc comment ça se passerait ?
Mais on a réduit la culture à la littérature, etc. La culture, c'est quelque chose de beaucoup plus large que ça. La culture, c'est pas de la littérature, de la peinture et de la musique.
C'est aussi.
Mais la culture, c'est tout ce que l'être humain a, depuis des origines, acquis. Qui lui permettent de survivre d'abord, c'est magnifique. Comment voulez-vous que la culture puisse survivre s'il n'y avait pas eu des paysans qui ont nourri les gens, s'il n'y a pas la terre, etc. Si le paysan disparaît, et pourtant il est en train de disparaître pour devenir malheureusement un simple exploitant agricole, depuis l'origine, la culture, ça n'a pas été que de la littérature et toutes ces choses-là. Et je suis dans la littérature moi-même.
C'est intéressant ce lien que vous faites toujours entre nature, culture, agriculture. On peut dire quand même, Pierre Rabhi, que certaines civilisations valorisent plus ou moins la relation à la terre. Dans l'introduction de votre nouveau livre d'entretien, L'agroécologie, une éthique de vie, vous émettez une hypothèse que je trouve absolument fascinante. Vous dites que les religions monothéistes, judéo-chrétiennes ou musulmanes, seraient incompatibles avec le respect des équilibres naturels. Qu'est-ce que vous voulez dire ?
Je persiste et signe. C'est-à-dire que dans le principe fondamental, disons, des religions monothéistes, c'est que Dieu a été l'auteur de la vie, l'auteur de la terre. Donc, ce qui m'étonne, c'est qu'après cette proclamation, que les monothéistes n'aient pas été les premiers écolos. C'est-à-dire qu'il aurait été logique de dire n'abîmons pas, ne portons pas atteinte à Dieu, puisqu'il a, c'est lui qui a créé la terre, la vie, etc. Et toute profanation est une atteinte à sa dignité. Ça aurait été, bon, je simplifie peut-être, mais c'est comme ça que ça aurait dû être.
Au
lieu de cela, c'est pas du tout le cas. Et l'écologie est devenue maintenant une affaire subsidiaire qu'on arrive à rattraper, à coller comme... l'écologie politique est une anomalie, parce que chacun de nous est lié intrinsèquement et indéfectiblement aux lois de la vie. Donc c'est pour ça qu'il y a cette scission entre la nature et nous est totalement anormale. C'est ce que je disais tout à l'heure, nous sommes tous de l'eau, nous sommes, etc.
Pour vous, le rapport à la terre, Pierre Rabhi, c'est toujours d'abord une question spirituelle ?
Tout peut être spirituel. Tout est spirituel. Il n'y a pas que le rapport à la terre. C'est-à-dire que l'esprit, c'est pas pour autant tomber, évidemment, dans des sectarismes ou des machins comme ça. C'est simplement la sensation simple qu'il y a une intelligence globale. Et là, je rejoins évidemment Socrate, parce que Socrate, vous savez, la philosophie est une quête de la vérité. Mais le problème, c'est que les philosophes ne s'entendent pas. Et quand Socrate dit « tout ce que je sais, c'est que je ne sais pas » ou quelque chose de ce genre-là, moi, ça me convient tout à fait, parce que c'est la réalité absolue. Qu'est-ce que nous savons ? Nous ne savons rien.
Et en quoi est-ce que vous croyez, vous ?
J'ai pas de croyance. Je pense que je suis évidemment un défenseur de la nature. Je vois l'intelligence et la beauté de la nature. J'essaie de la défendre. Et puis voilà, je crois à ça. Parce que si nous tuons la terre, on tue les générations qui viennent.
Sans quoi, je crois, moi, Pierre Rabhi, je vais vous dire, c'est la musique. C'est de la musique pour la planète, hein, s'il vous plaît. 1970, la géniale Johnny Mitchell et son gros taxi jaune, vous vous souvenez? Vous êtes sur France Inter avec Pierre Rabhi, vous écoutez Boomerang.
They paid paradise, put up a parking lot. With a pink hotel, a boutique and a swinging hot spot. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paid paradise, put up a parking lot. They took all the trees, put them in a tree museum. And they charged the people a dollar and a half just to see them. Seem to go that you don't know what you've got till it's gone. They paid paradise, put up a parking lot. Hey, farmer, farmer, put away the DDT now. Give me spots on my apples, or leave me the birds and the bees. Please, don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone. They paid paradise, put up a parking lot. Late last night, I heard the screen door slam. And a big yellow taxi took away my old man. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone. They paid paradise, put up a parking lot. I said, don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone. They paid paradise, put up a parking lot. They paid paradise, put up a parking lot. They paid paradise, put up a parking lot.
Boomerang, le best-of sur France Inter.
Mon invité aujourd'hui exprime mieux que personne cette conscience de la nature dans ses albums de bande dessinée comme dans son art tout entier. Grand prix de la ville d'Angoulême en 1987, il a été l'un des artistes de la réhabilitation de la bande dessinée comme art majeur et total, avec ce coup de crayon inimitable qui triomphe dans la trilogie Nicopole, dans la tétralogie du monstre. Il publie aujourd'hui La couleur de l'air, qui vient après Animals en 2009 et Julia et Rome en 2011. Une rétrospective de son œuvre protéiforme a par ailleurs été inaugurée hier à Toulon, et il est, pour couronner le tout, rédacteur en chef d'Un Jour sur le site de France Inter. Bonjour Enki Bilal.
Bonjour, ça fait beaucoup.
Ouais, ça fait trop presque.
<C'est> trop.
Merci d'être là. Avant toute chose, un mot peut-être sur le temps qu'il fait, sur ce réchauffement climatique qui semble s'emballer. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous?
Ce que ça m'inspire déjà, c'est que c'est pas un terme nouveau, réchauffement climatique. Moi, j'en entends parler depuis des décennies déjà. Le trou dans la couche d'ozone, on en entend parler aussi depuis très longtemps. La prise de conscience est lente, c'est ce que ça m'évoque tout simplement. Je trouve qu'on est très lent, on est rapide dans certains domaines et très lent dans cette prise de conscience à l'ouverture de ce 21e siècle. Donc on est encore derrière, on court après toujours.
À la notion d'écologie, je vous ai souvent entendu dire que vous préfériez le terme de planétologie.
Oui, parce qu'écologie, je trouve que ce terme est un peu marqué, un peu sali, hein, je me permets de dire ça, par le politique, par la stratégie politique, le court terme, les petites luttes d'appareils, enfin bon bref, je trouve que ça ne ressemble pas peut-être au combat qui devrait être celui de l'écologie, qui devrait être un combat humaniste aussi, qui devrait être très ouvert et être surtout peut-être un combat de résistance, puisque visiblement on n'arrive pas à fabriquer un système sain sur une courte durée.
Vous voulez dire que par là que les écologistes seraient dans une forme de collaboration plutôt que dans une résistance?
Ils sont pris au piège des petites guerres intestines. Ils sont dans une espèce de nasse. Je les trouve un peu contraints, quoi. Ils se libèrent pas.
Évidemment, je vous lance sur ce sujet parce qu'il n'est pas étranger à votre trilogie Coup de sang, dont le dernier album sort aujourd'hui. Le coup de sang dans votre livre, c'est ce grand dérèglement climatique. On n'en est pas encore là, mais presque. Hein. Ce coup de sang, c'est tout, Enki Bilal. Science-fiction.
Alors, je pense que c'est une fable. Hein. C'est même pas de la science-fiction, c'est une fable. Donc c'est un dérèglement que la planète elle-même provoque. Donc c'est pas... D'ailleurs, qui dit que les tsunamis, tout ça, ça ne vient pas un peu d'une espèce de conscience, de fragilité. La planète peut se sentir fragile, fragilisée en tout cas par le XXe siècle, qui a été assez violent pour elle. Et donc moi, le coup de sang est un terme qui s'applique aux humains. Oui. Donc d'une certaine façon, la planète pour moi est une entité vivante et c'est elle qui se révolte. Et c'est elle qui redonne une chance à une partie de la population. Ouais.
Mais le geste créatif pour vous, à mesure que vous écrivez cette trilogie que vous avez entamée il y a 5 ans, il répond à une actualité, l'actualité d'une nature qui se dérègle ?
Là, oui, il répond, mais le dérèglement de la nature, il est dans la durée, il est entamé depuis très longtemps, je parlais de ce 20e siècle. Donc je crois que je ne risquais pas d'être surpris. Donc je suis dans un long cours en fait. J'ai un coup d'avance d'une certaine manière, je l'ai eu... Malgré moi, sur l'obscurantisme et avec Pierre Christin bien avant, sur la fin du communisme. Mais là, effectivement, j'ai rangé un peu les grands thèmes humains, je veux dire politiques, géopolitiques et religieux. J'ai mis ça derrière, parce que c'est derrière, même si on a des intégristes qui sont à l'œuvre, hein. Il y a toujours l'effet retard. Donc moi, là, je me suis amusé à créer une fable qui soit un peu plus prospective, un coup d'avance toujours. C'est amusant de jouer avec ça. Et après, il y a la réalité qui vient vous chatouiller les pieds. Elle est là.
Et on va rassurer tout le monde, Enki Bilal. En fait, vous n'êtes pas si pessimiste que ça. Vous êtes même plutôt optimiste.
Il y a une fin qui est plutôt joyeuse.
Sans rien dire.
Sans rien dire. Faut rien dire de la dernière page.
Vous accordez quand même dans ce livre, dans cette trilogie, pleine confiance à la planète qui en est l'héroïne, hein, qui est douée de pensée, qui est douée de mémoire, qui est douée de parole et qui corrige sans cesse les errances de l'humanité. Vous êtes optimiste quant à la nature, mais vous êtes quand même plus dur envers l'humanité qui est coupable. Qu'est-ce que vous changeriez à cette humanité, Enki Bilal, s'il fallait la remettre à jour, comme c'est le cas dans votre livre ?
Ben oui, voilà, donc tout est à écrire. C'est la planète qui redonne les clés, après avoir abrasé quand même la mémoire des humains pour leur dire, voilà, vous avez les capacités intellectuelles pour faire mieux. Surtout donc pas de devoir de mémoire, en l'occurrence, sur ce coup-là. Non, moi, je sais pas, je dirais, vraiment, c'est des termes un peu planétologie, écologie, humanisme, c'est des termes qui ont peut-être pas beaucoup de sens, mais je crois qu'il faut les réhabiliter. Moi, je serais vraiment pour je rêve d'une gouvernance mondiale, c'est une utopie absolue. On est plutôt dans une régression qui fait que les pays se morcellent. Je veux dire, moi je viens d'un pays qui a explosé dans les années 90.
Et la
Yougoslavie. Maintenant, c'est des petits bouts de pays qui sont de nouveau rongés par le nationalisme, par les religions, etc. et qui veulent en plus rentrer dans l'Europe. Donc on marche à rebours de ce qu'il faudrait faire. C'est un sentiment peut-être facile à faire partager. Je crois que c'est clair dans l'esprit des gens que le monde est en régression alors qu'il devrait être en ouverture.
J'ai l'impression qu'il y a comme une sorte de mémoire reptilienne en fait chez l'homme, la mémoire d'un temps, sans doute d'un temps d'avant la chute, Enki Bilal.
Ah, reptilien, mammifère marin, on est dans l'hybridation en plus. Je pense que l'homme ne doit pas renier ses origines. Il sort quand même de l'eau. C'était il y a très longtemps, mais on est sorti de l'eau avec les dauphins.
Le monde que vous décrivez, on le décrit souvent comme apocalyptique. C'est l'obscurité, c'est cet immense nuage, ces maisons en lévitation, ces cétacés qui évoluent dans le ciel comme s'ils étaient dans l'eau.
Ce trou noir aussi. C'est sympa que les cétacés passent là devant.
Ça fait un peu peur quand même, Enki.
Ça fait peur, c'est vrai.
Même si vous êtes optimiste, j'ai très peur. Moi, ça me fait noir qui avale tout. Sauf que l'apocalypse, vous le savez mieux que personne, Enki Bilal, c'est pas la fin. C'est évidemment la renaissance. C'est ça quand même que vous cherchez à raconter dans toute cette trilogie, en fait.
Oui, sauf que le terme apocalypse, je le relis bizarrement, ou pas bizarrement d'ailleurs, plutôt au religieux, même si ça n'est pas à l'origine, c'est pas ça. La renaissance, oui, je pense que c'est forcément, on peut pas finir avec la fin de l'humanité, c'est absurde. Même, je pense que la réalité risque d'être ça. Mais il faut surtout pas l'évoquer. Il faut pas essayer de. Ça peut pas être une fin en soi narrative ou la fin d'une fable. La fable s'ouvre forcément sur autre chose, mais cette autre chose est à la fois ludique, joyeux et absurde. Dans cette zone, ces trois dernières pages, je reviens dessus. C'est là que se constitue peut-être le rêve, le fantasme du lecteur. Chacun va pouvoir choisir sa fin après, imaginer ce qu'il veut imaginer. Mais moi, en tout cas, j'ai voulu sauver l'humain, bien sûr.
La question de la représentation de la nature, Enki Bilal, vous la posez d'un point de vue scénaristique et graphique dans ce livre. On peut aussi se la poser d'un point de vue sonore, puisqu'on est à la radio, et vous nous avez fait un cadeau, une création sonore, donc griffée Enki Bilal, que vous retrouverez sur le site de franceinter.fr, mais que vous nous dévoilez, Enki, aujourd'hui.
Et merci à Christine Simeon.
En exclusivité.
Sable mouvant, démons et merveilles, vent et marée. Au loin déjà la mer s'est retirée. Et toi, comme une algue doucement caressée par le vent, dans les sables du lit tu remues en rêvant des monts et merveilles.
À
votre avis,
des loups.
Des loups, ceux que j'espère voir encore longtemps hanter nos paysages, sans trop faire de mal, aux agneaux. Mais on est effectivement dans cette notion de survie, le côté précieux de la vie. Je pense que c'est dans ces moments-là, le monde animal nous doit pas beaucoup, on lui doit beaucoup, nous.
Ce qui apparaît quand même comme central à travers ce sonore, c'est cette célébration de la nature qui est centrale aussi chez vous en tant que personne et en tant qu'artiste. On l'a entendu, Enki Bilal, il y a quelque chose de quasi panthéiste, de quasi religieux chez vous.
Cette religion-là, oui, je l'assume totalement. Elle n'est pas monothéiste, elle est purement ouverte sur la création, mais la création de la nature. Alors là, moi, évidemment, c'est pas la création du Dieu par le Dieu unique. On est dans ce grand mystère qui est la vie. Et comment ne pas aujourd'hui, je veux dire, quand on est ballotté dans ce monde que moi je trouve absolument passionnant, mais en même temps extrêmement dangereux, extrêmement angoissant, inquiétant. Comment ne pas penser en permanence, je trouve qu'on ne le fait pas assez. Je veux dire, la pub le fait de temps en temps pour nous, mais cette planète qui est dans l'espace, c'est quand même quelque chose qui est devenu abstrait ou qui est devenu totalement une marchandise, une marque, je dirais. Et ça, c'est très dommage, parce que je crois que la planète dans l'espace, c'est une image, c'est une photo de nous. C'est un selfie, en fait.
Boomerang, le best-of.
Qui d'autre que mon invité d'aujourd'hui pour parler de l'animal en nous, dans son quatrième roman qui s'intitule justement Règne animal, récompensé la semaine dernière par le prix du Livre Inter, il explore, à travers l'épopée d'une famille d'agriculteurs, ce lien si complexe, cette frontière poreuse, infime entre l'homme et l'animal, une histoire de la violence portée par une langue organique, crue et aussi lumineuse que son propos est sombre. Bonjour Jean-Baptiste Alamo. Qu'est-ce qui se joue de l'homme et de son humanité dans le traitement réservé aux animaux, pour vous ?
C'est une vaste question. Je crois que l'élevage, et en particulier l'élevage industriel, cette exploitation effrénée d'êtres vivants dont on sait aujourd'hui que ce sont des êtres sensibles, nous amène évidemment à nous questionner sur la façon dont nous cherchons systématiquement à dominer ce qui nous entoure et nous interroge aussi sur ce que nous sommes, sur notre humanité, sur nos valeurs.
Est-ce que c'est vraiment propre à notre époque où l'élevage se fait effectivement à l'échelle industrielle, parce que la cruauté envers l'animal, elle est aussi présente chez les premiers paysans que vous décrivez et qui vivent au début du siècle.
Oui, dans ce livre-là, j'ai pas du tout cherché à idéaliser un élevage traditionnel. Alors certes, les éleveurs avaient beaucoup moins, les agriculteurs, c'était même pas des éleveurs à l'époque. Les fermes avaient quelques animaux qui étaient souvent maintenus dans des conditions préférables à celles de l'élevage intensif. Mais quand même, la finalité de cette relation-là, c'était la mise à mort de l'animal.
Et moi, je pense aussi à cette scène où Éléonore, celle qui va donner naissance à la lignée dont vous racontez l'histoire sur un siècle, torture un chat, l'étrangle. Pourtant, elle aime ce chat, comme si la cruauté était en somme quelque chose de naturel. Mmh. C'est ça que vous dites, en fait.
Oui, alors en plus, elle est enfant quand elle fait ce geste-là. Et c'est vrai qu'il y a toujours un moment dans l'enfance où on prend conscience de la domination possible sur le plus faible et sur l'animal, souvent... En premier, en fait, puisque c'est l'animal qui est à la merci de l'enfant. Et donc, à cet instant-là, elle réalise cette puissance dont elle dispose et qui préfigure finalement cette violence systématique infligée aux animaux par toute sa descendance dans le cadre de l'élevage.
Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière. Et tu retourneras poussière. Je me pose la question que vous inspire ce texte de la Genèse, que vous faites vôtre, hein, parce que vous le mettez dans la bouche d'un de vos personnages, la génitrice, au tout début du roman.
C'est comme une malédiction posée, et c'est une mythologie aussi qui pourrait être applicable à certains romans de Faulkner, par exemple. Je pense à Absalom, ces grandes fresques comme ça qui montrent ces hommes qui se débattent avec la terre, qui essaient de lui soutirer quelque chose et qui se détruisent en même temps dans cette ambition-là.
Et avec une culpabilité aussi, toute judéo-chrétienne, puisque vous citez Faulkner aussi.
Bien sûr, il y a aussi, se débattre avec cette culpabilité-là.
En fait, à vous lire, Jean-Baptiste Delamo, on a le sentiment que pour les hommes et les animaux, l'enfer c'est ici, maintenant et depuis toujours. Pour vous, l'enfer il est où aujourd'hui ?
Je ne crois pas à une existence après la mort, donc que ce soit le paradis ou l'enfer, s'ils doivent exister quelque part, c'est ici et maintenant. Après, le monde étant ce qu'il est, je crois effectivement qu'on se débat dans une forme d'antichambre de l'enfer, en tout cas, et qu'on doit tous aspirer, bien que je sois d'un tempérament plutôt pessimiste, je me dis qu'aujourd'hui, on n'a pas d'autre choix que celui de l'engagement et d'une forme d'optimisme contraint, en fait, pour essayer de faire bouger les lignes et changer les choses.
Jean-Baptiste Delamo, invité de Boomerang ce matin pour son quatrième roman, Règne animal, récompensé, on le disait, par un jury d'auditeurs de France Inter, un roman qui n'est pas sans lien avec vos précédents. Je pense à Une éducation libertine en particulier, mais aussi au sel et à Pornographia, notamment dans la façon que vous avez de décrire le corps. Et là, je pose vraiment la question à l'écrivain, c'est quoi un corps pour vous ?
Un corps, c'est ce qui nous réunit tous, puisque a priori nous en avons tous un. C'est un vaisseau avec lequel nous traversons la vie, et c'est un vaisseau qui peu à peu s'abîme, qui change, qui n'est jamais le même. Et je pense que c'est un matériau extraordinaire pour l'écriture. Moi, je ne suis pas un intellectuel. Je n'ai pas grandi au contact de la grande littérature ou de la philosophie. Et finalement, mon rapport au monde, il s'est construit par le corps, par les sensations. Et aujourd'hui, je pense que c'est mon médium, en fait, dans l'écriture.
Oui.
Oui.
Et c'est assez fascinant, hein, parce que vous en faites un élément comme un autre du monde vivant. Vous le placez jamais au-dessus des animaux, par exemple. Il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de suprématie. Est-ce que c'est une façon aussi de le désacraliser ?
C'est bien sûr une façon de le désacraliser, et en même temps c'est une façon de réunifier le corps aussi, que ce soit le corps non humain, enfin animal humain ou animal non humain. Et ça, c'était un parti pris qui s'est rapidement imposé lorsque j'ai commencé à décrire ces humains et ces animaux, de choisir un regard extérieur, de ne pas pénétrer dans l'intériorité de ces personnages.
Ces corps qui jouissent, qui défèquent, qui s'accouplent, qui mangent, qui souffrent, qui se décomposent aussi. Est-ce que votre objectif dans l'écriture, c'est aussi justement de parler au corps du lecteur?
Oui, bien sûr, j'ai envie d'engager le lecteur dans une expérience qui soit une expérience physique, émotionnelle et
sensible. Quitte à le déranger.
Bien sûr, et puis il y a une beauté quand même aussi dans la simplicité finalement de ces corps, dans ce grand mouvement organique. Par exemple, quand je décris ces corps qui retournent à la Terre, qui se décomposent, qui reviennent à une forme de cosmogonie aussi, pour moi il y a quelque chose de très beau, à la fois de très futile, de très éphémère et de très poétique.
C'est comme si la littérature, à vous entendre, était un exercice du regard, d'abord, un exercice qui consiste à sonder l'obscurité, les recoins d'ombre, non ?
Oui, j'aspire à aller vers une écriture qui ne serait plus qu'une écriture de la contemplation, du regard.
Comment on fait, Jean-Baptiste Delamo, pour faire rentrer la lumière, pour éclaircir les zones d'ombre ?
Par contraste, je travaille sur des univers qui sont assez sombres, et j'essaie tout de même par instant de faire jaillir quelque chose de lumineux. Et bien souvent, ça se passe dans le rapport avec la nature. Donc c'est une lumière physique, c'est une éclaircie, c'est un instant de bonheur saisi, arraché presque à la vie. Et c'est sur ces contrastes-là que j'essaie de montrer quelque chose de notre humanité.
C'est sans instrument, c'est sans piano, Benjamin Clementine, que vous allez nous chanter quelques notes, comme si vous étiez à poil en fait, hein, sous la douche par exemple. Je crois que vous allez chanter du Nick Drake, Riverman.
as she came by on her way, said she had a word to say about things today and falling leaves. Said she hadn't heard the news, hadn't had a time to choose a way to lose. Yet she believes. Gonna see the river man, gonna tell him all I can about the plan for lilac time. And if he tells me all he knows about the way his river flows and all night shows in summertime.
Wow, Benjamin Clementine en live pour nous exclusivement. Et maintenant, c'est l'heure de l'instant M. Dorothée, c'est à vous.
Merci beaucoup, Augustin, et à demain.